Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Grèce, Turquie, fracture ouverte et souffrance accrue pour des réfugiés instrumentalisés aux frontières des deux pays, correspondance d'Istanbul. En France, maraude de grand format ce soir dans les Hautes-Alpes pour éviter qu'il ne meure en montagne. État d'urgence sanitaire dans les territoires palestiniens. 9 cas de coronavirus détectés à Bethléem, fermés aux touristes depuis hier. La bulle éco se demande si les banques centrales vont consolider l'économie mondiale fragilisée. Enfin, McCoy Tyner, mythique et mystique pianiste du Magic Quartet de John Coltrane, est mort. En fin de journal, les mots d'Alex Dutil, producteur d'Open Jazz sur France Musique. Massés par centaines contre les barbelés de la frontière gréco-turque, ils ont fui la guerre et les voilà violentés par des hommes en armes, comme tombés dans un guet-apens sous-tendu par des ambitions financières, alimentés par deux chefs d'État qui se crient des noms et dénoncent l'hypocrisie, la passivité de l'Union européenne. Hier, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, déclarait que l'accord entre Bruxelles et Ankara, qui depuis 2016 avait limité l'afflux de déplacés, était mort. Ce matin, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, ordonne aux gardes-côtes d'empêcher les migrants de traverser la mer Égée. C'est une correspondance d'Anne Endlauer à Istanbul.
Dans une série de messages publiés sur son compte Twitter, le service des gardes-côtes turcs fait donc une mise au point. Sur ordre du président Recep Tayyip Erdogan, tous les départs vers les côtes grecques seront stoppés en mer Égée. Le communiqué officiel invoque les dangers que cette traversée fait courir aux migrants, affirmant que, je dis encore, 97 personnes ont été sauvées en mer après que les gardes-côtes grecs auraient, je cite, « dégonflé leurs bateaux et les auraient laissés dériver à moitié en train de couler ». Le communiqué précise que ces annonces ne changent rien au principe consistant à ne pas intervenir pour empêcher les migrants de quitter la Turquie. Ces derniers jours déjà, le président Erdogan avait laissé entendre que sa nouvelle politique de portes ouvertes concernait en priorité la frontière terrestre. C'est d'ailleurs vers cette frontière que les autorités turques, affrétant gratuitement des cars, ont tenté de créer un afflux migratoire massif aux portes de l'Europe. En réalité, le flux semble s'être tari face aux heurts à répétition avec les forces grecques. Recep Tayyip Erdogan les a accusé vendredi d'avoir tué 5 migrants. Alors qu'il doit se rendre à Bruxelles lundi, le président turc pourrait surtout vouloir se ménager une marge de négociation avec les dirigeants européens. La présidence turque précise qu'il entend notamment discuter d'une mise à jour de l'union douanière entre la Turquie et l'UE et de l'ouverture de nouveaux chapitres des négociations d'adhésion. Autant de promesses sans lendemain qui figuraient dans le pacte migratoire signé en 2016 et que Recep Tayyip Erdogan espère peut-être encore voir se concrétiser.
30 morts hier dans un attentat à Kaboul, 30 membres de la communauté Hazara. Les statistiques sans cesse réactualisées par les ONG en attestent. Les minorités afghanes, ciblées et par les talibans et par l'organisation État islamique, fuient en masse leur pays et tentent de gagner l'Europe de l'Ouest. Après avoir déjoué l'attention des gardes-frontières des pays d'Europe centrale, ils se heurtent aux Alpes et entre autres à la police française. Nombre d'associations, au risque d'être condamnées par la justice, veulent à leur secours ainsi. Une grande maraude est-elle organisée ce soir au départ de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, à côté de Briançon. À l'origine de cette manifestation, un collectif d'associations, des associations qui dénoncent la criminalisation des personnes solidaires des migrants et la multiplication de contrôles et de patrouilles qui amènent les candidats à l'exil à prendre toujours plus de risques. Patrick Marsauch est président de la CIMAD 05. Il est au micro de Claire Tchekaglini.
Les migrants qui arrivent dans les montagnes sont en danger de mort à cause des conditions de froid, de neige, d'avalanche. Donc pour nous, c'est important de dire au pouvoir public qu'on ne veut pas de mort dans les montagnes. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est solidaire avec tous ceux qui font des maraudes. Je me souviens par exemple de deux jeunes, 15-16 ans, qui avaient passé la nuit à essayer d'éviter le poste frontière du Mont-Genève. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit on a pensé pendant toute la nuit qu'on allait mourir alors qu'ils avaient traversé le désert, qu'ils avaient traversé la Libye, qu'ils avaient traversé la Méditerranée. Ils pensaient qu'ils allaient mourir en arrivant en France. On a eu malheureusement plusieurs morts, pas cet hiver, mais l'hiver d'avant. Et on a très peur en ce moment qu'il y ait de nouveau des morts dans la mesure où la montagne est particulièrement dangereuse en ce moment.
Entre autres mesures exceptionnelles prises en raison du coronavirus, celles prises conjointement par les autorités israéliennes et l'autorité palestinienne qui ont empêché dès hier l'entrée et la sortie de touristes à Bethléem, principale ville touristique des territoires palestiniens. En cause, la découverte de 16 cas de coronavirus en Cisjordanie occupée, où l'état d'urgence sanitaire était instauré pendant 30 jours. 9 des personnes détectées positives au coronavirus habite Bethléem. Alice Froussard est notre correspondante dans les territoires palestiniens.
La basilique de la Nativité, lieu de naissance de Jésus, selon les chrétiens, a fermé ses portes, comme toutes les églises et les mosquées. Les écoles, crèches, universités sont fermées également. Tout le monde doit rester confiné et Bethléem ressemble à une ville morte, explique Ismaël, espagnol d'une trentaine d'années qui vit ici.
Il y a un sentiment un peu post-apocalyptique. Personne dans les rues. Et on entend parler du coronavirus partout. J'ai peur que les gens deviennent tous paranoïaques.
Depuis hier, les bus font demi-tour au checkpoint. Plus aucun touriste ne peut entrer à Bethléem au minimum pour les 15 prochains jours. Et c'est ça qui inquiète le plus Jack, commerçant palestinien qui vend des crèches dans le centre-ville.
C'est insensé pour nos affaires. On ne va pas pouvoir en faire, on ne va rien pouvoir vendre et tous les hôtels sont vides. Bethléem est une ville qui dépend du tourisme. Il y a de grands hôtels, des restaurants, de l'artisanat, tout ça est totalement à l'arrêt. Personne n'est venu à son travail et vraiment, c'est une situation très compliquée économiquement plus qu'autre chose.
Des mesures drastiques dans la ville la plus visitée des territoires palestiniens. Environ 3 millions de touristes viennent à Bethléem chaque année.
Le gouvernement italien a lui décidé ce matin d'envoyer 20 000 renforts dans ses hôpitaux pour affronter l'épidémie de coronavirus qui frappe la péninsule, pays le plus durement touché d'Europe. Mais ne cessons pas d'évoquer le sujet.
La bulle économique, Marie Viennot.
Les places boursières ont été plus que chahutées cette semaine. La bulle économique se demande si les banques centrales sauront venir à la rescousse de l'économie mondiale et européenne.
À chaque crise, les regards se tournent vers les banquiers centraux. En début de semaine, les marchés américains hurlaient à la Réserve fédérale d'agir pour reprendre les termes utilisés par l'expert que l'on vient d'entendre sur la chaîne Bloomberg. La Banque centrale américaine l'a fait en réduisant son taux directeur d'un seul coup de 50 points de base. C'est-à-dire que le taux qui guide les autres taux d'intérêt est passé aux États-Unis de 1,75 à 1,25. Mais que peuvent 50 points de base contre l'épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques. Dans un premier temps, cela rassure les marchés financiers, ce qui est bien, mais force est de constater que ce fut de courte durée. Après un rebond, les bourses américaines, européennes et asiatiques sont reparties dans une spirale baissière. L'incertitude sur l'avancée de l'épidémie reste entière et c'est ça qui nourrit la volatilité des cours. La Réserve fédérale n'exclut pas d'agir à nouveau dans les prochaines semaines. Mais que peuvent 50 points de base quand une chaîne de montage est à l'arrêt parce qu'il manque un composant « made in China ». Ce qui rend l'épidémie de coronavirus inédite dans ses conséquences économiques, c'est qu'elle crée deux chocs en même temps. Un choc d'offres et un choc de demande. Le choc d'offres, c'est du côté de la production. C'est un choc mondial, car les entreprises ont organisé leurs lignes de production pour réduire les coûts au maximum. Le retard de livraison d'une pièce peut bloquer toute la production en aval. Les secteurs automobiles et électroniques sont particulièrement touchés, mais aussi le textile et l'agroalimentaire. Combien de temps vont durer les perturbations ? Nul ne sait, car ce n'est pas l'économie qui commande cette fois, mais le virus et la durée de l'épidémie. Le choc de demande, c'est du côté de la consommation. Inquiets, les consommateurs ne vont plus dans les magasins, les restaurants. Ils annulent leurs voyages, leurs réservations d'hôtels. Les mesures de sécurité prises par les autorités amplifient encore cette contraction de la demande. Spectacles vivants, hôtellerie, commerce, pour beaucoup de professionnels, les pertes seront sèches. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rattrapage quand ça ira mieux. Le chiffre d'affaires perdu le sera définitivement, ce qui pourra conduire à des licenciements et accentuer encore ce choc de demande. Dans ce climat incertain, une chose est sûre, la croissance mondiale va ralentir plus que prévu. 0,5 points de croissance en moins si l'épidémie atteint bientôt son pic et reflue. Ça, c'est le scénario optimiste de l'OCDE, mais ce sera 1,5 points en moins si la crise sanitaire s'amplifie. Ce qui est sûr aussi, c'est que les banques centrales ont un rôle à jouer. Mais comme l'a répété à plusieurs reprises l'économiste en chef de l'OCDE, Laurence Boone,
This is not a crisis that can be solved by central banks.
Elles ne sauveront rien toutes seules.
This is not a shock that central bank alone can address.
Ce qu'il faut, ce n'est pas seulement irriguer les marchés avec des liquidités. Ce qu'il faut, c'est de l'argent sonnant et trébuchant pour aider les entreprises, les salariés, soigner les malades et contenir l'épidémie. La balle est donc dans le camp des États et de leur budget souvent contraint. Les montants à mobiliser sont colossaux, ils se comptent en dizaines de milliards d'euros. La zone euro peut-elle s'affranchir des règles de Maastricht pour le coronavirus? Si ce n'est pas le cas, on va de nouveau se retourner vers la Banque Centrale Européenne. Pourrait-elle, elle, faire un pas de plus vers les solutions dites non conventionnelles? La question se pose. Alors pourquoi ne financerait-elle pas, directement, les entreprises et les particuliers? Elle qui peut battre monnaie de façon illimitée. Ce serait inédit, mais pas infaisable, estiment les économistes qui plaidaient déjà pour cette solution nommée monnaie hélicoptère, ou plus récemment, drone monétaire. Plus que le conseil des gouverneurs de la BCE, c'est la propagation de l'épidémie qui sera clé pour ce choix. Et si rien ne va mieux, les considérations sanitaires pourraient bien alors avoir raison des doctrines monétaires.
Merci à vous Marie Viennot. Il est 12h41 et vous écoutez le journal de France Culture. Le timbre de la voix de Juno Lewis. Pour ouvrir Kulusse Mama, une œuvre majeure du Magic Quartet de John Coltrane. Nous sommes en 1965. Le quartet enrichi pour ce travail, entre autres, de Pharoah Sanders. Le Magic Quartet et ses quatre points cardinaux, outre John Coltrane, Jimmy Garrison à la basse, Edwin Jones à la batterie et McCoy Tyner qui vient de disparaître. Au diable les superlatifs. Diane Berger a eu l'idée d'appeler Alex Dutille, producteur de l'émission culte Open Jazz sur France Musique.
J'ai fait beaucoup d'interviews de musiciens dans ma carrière. J'avais pas les jambes qui tremblaient quand j'ai interviewé Sonny Rollins ou Keith Jarrett. Par contre, la première fois, mais j'avais 23 ans, où on m'a envoyé interviewer McCoy Tyner, j'étais terrorisé parce que je rencontrais celui qui avait connu Coltrane. Et c'est comme si j'avais rencontré un apôtre, quoi. Il y avait un côté mystique, il avait une voix très grave. Et il parlait lentement, comme un vieux sage, même si à cette époque-là, c'était au milieu des années 70, il n'était pas très vieux. Mais il y avait une aura de sagesse et de gravité qui se dégageait du personnage. Lui aussi, il avait beaucoup de densité mystique.
Il était comment humainement ?
Humainement, absolument humble et charmant. Il parlait presque autant de philosophie de la vie que de musique. Et pour lui, c'était imbriqué. C'était la même chose. Lui, il vient de Philadelphie. Et à Philadelphie, il se fait repérer par Benny Golson et Art Farmer, qui l'embauchent dans un groupe qui s'appelle le Jazz Tet. Et c'est vachement important dans la carrière de McCoy Tyner, parce que Benny Golson est un extraordinaire compositeur. Et du coup, McCoy Tyner va apporter beaucoup de soins à l'écriture aussi, à ses compositions. Et quand il rencontre John Coltrane, qui va être la rencontre de sa vie, il lui fournit une composition qui s'appelle The Believer, le croyant. Et quand on connaît le mysticisme qui habite Coltrane, on se dit que voilà, ils étaient faits pour se rencontrer. Les 6 ans qu'il va passer au sein du quartet de Coltrane jusqu'en 1965 vont complètement changer et sa vie et la musique de Coltrane aussi. Le quartet de Coltrane avec Elvin Jones à la batterie, Jimmy Garrison à la basse et McCoy Tyner au piano, c'est une rencontre comme celle des Beatles, quoi. C'est 4 personnalités musicales qui créent une osmose qui ne peut pas exister sans l'un des 4. C'était un envoûtement, c'est un sentiment chez l'auditeur d'être enveloppé, d'être emporté dans un voyage. Et il y a un côté hypnotique dans cette musique qui vient pour beaucoup de la façon répétitive dont le piano traînait harmoniquement sur quelque chose de modal et rythmiquement sur un rythme obsessionnel, quoi.
Est-ce qu'il a un peu des héritiers? Quelle influence il a aujourd'hui?
Il n'y a pas d'héritage direct. Je ne vois pas aujourd'hui un pianiste sur la scène internationale qui puisse dire « je suis un héritier de McCoy Tyner ». Par contre, il a forcément été rythmiquement marqué par McCoy Tyner. Et aujourd'hui, dans les années 2000, on a eu un renouveau de ce qu'on appelle le spiritual jazz, que ce soit chez des musiciens anglais ou américains, quand on veut revenir à la source de ça, on revient sur ce quartet de Coltrane avec McCoy Tyner.
Alex Dutille, producteur de France Musique. France Musique qui d'ailleurs bouscule ses programmes ce soir et rend hommage à McCoy Tyner, émission spéciale entre 19 et 20 heures. Quelques mots de la météo pour affirmer cette édition. 3 départements restent placés en vigilance orange crue. Il s'agit des deux Sèvres, du Calvados et du Tarn-et-Garonne. Au sud de la Garonne et des Pyrénées, neige au-delà de 800 mètres. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue et à la technique, Anthony Thomasson.